Un petit mot d'abord concernant la généalogie, dont la première fonction est sans doute de faire bien résonner aux oreilles de ceux et celles qui veulent savoir de quoi est constituée leur foi, de bien leur indiquer la particularité de celui qui vient, qui ne tombe pas du ciel ou de nulle part, mais qui vient d'une cascade de générations. Et c'est cet effet que la lecture par Nicolas a reproduit aujourd'hui. Et c'est cet effet qui compte au-delà des légendes, celui-ci vient des humains. L'autre fonction de la généalogie est d'affirmer que celui-ci, de descendance humaine, est aussi issu de David. Il est fils de David, fils donc du roi Messie et Messie lui-même. Aujourd'hui, sans doute, la première fonction, faire résonner, affirmer massivement que celui-ci est du même sang que nous, pourrait encore nous parler, à condition que nous en parlions évidemment. Tandis que la filialité messianique n'intéresse plus grand monde, et en tous les cas, pour nous, aujourd'hui, ce n'est plus une raison pour nous attacher ou nous attacher davantage à celui-ci et à son message, et à ce que son existence même nous raconte sur le sens potentiel de notre existence à nous. À propos encore de la généalogie de Jésus. En fait, dans nos évangiles, il y en a deux. Celle de Matthieu, que nous avons entendue, mais aussi celle de Luc. Je sais, ce n'est vraiment pas la priorité des gens par les temps qui courent, je le sais bien, mais aujourd'hui, j'ai la ferme intention de ne pas communier avec l'actualité. Mais les deux généalogies, il se trouve qu'elles sont presque complètement différentes. D'abord, une anecdote. Celle de Luc remonte jusqu'à Adam, ce qui fait mieux entrer Jésus dans une lignée humaine universelle, tandis que celle de Matthieu fait démarrer l'origine de Jésus à Abraham. Ce qui signifie pour Matthieu le choix d'un angle historique. Jésus, pour Matthieu, est d'abord le fils de l'histoire d'un peuple particulier. Ce qui n'a rien d'étonnant, puisque Matthieu s'adresse à des juifs convertis, tandis que Luc s'adresse, lui, à des personnes converties, certes, mais pas uniquement du judaïsme de l'époque. Mais il y a une autre différence, beaucoup plus massive que cette histoire de choix de l'angle. C'est tout simplement que de David à Joseph, les généalogies sont complètement différentes, sauf de nom, mais qui sont sans doute des homonymes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, comment les compilateurs des évangiles ont-ils pu laisser passer une erreur pareille, qui a priori réduit en poussière ce qui aurait dû s'apparenter à une démonstration? La solution la plus courante à ce problème est qu'en fait, Luc ne fait pas la généalogie de Joseph, ce Joseph qu'il décrit fort astucieusement comme celui dont on pensait qu'il était le père de Jésus, mais Luc produirait en fait la généalogie de Marie. Mais il le fait, comment dire, assez discrètement. Et de la sorte, on va s'apercevoir que Marie est elle aussi descendante de David, mais par un autre de ses fils, à savoir Nathan, et pas Salomon. Et puisque le problème massif, mais très bien décoré par les récits de naissance de Jésus, est que Joseph ne serait pas le géniteur de Jésus, il était sans doute important de suggérer que Marie, elle, véritable mère de Jésus, était de la lignée de David. Je vous raconte cela en ce jour particulier et surtout dans cette période particulière pour simplement qu'on se rappelle que Jésus est non seulement celui qui sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, mais aussi qu'il est comme nous. Il est, par l'intermédiaire de Marie, le porteur, dans son sang, dans ses gènes, d'une myriade de traces vécues par ses ancêtres, et comme nous, il n'est pas qu'un simple individu. L'individualisme, on s'en rend compte progressivement aujourd'hui, n'est qu'un idiotisme ou un mythe. Mais il est aussi, celui-ci, tous ceux et celles qui l'ont précédé. Si toutefois le mot précédé reste pertinent, car tous ceux-là sont encore ici, en lui, en nous, toute la vie du monde coule dans nos veines, d'avant même d'ailleurs que l'humain en tant que tel existe. Bien entendu, nous ne le savons pas, nous ne le percevons pas, et cette immense histoire n'est pas une mémoire saisissable. Et c'est heureux, pour cet individu que nous croyons que nous sommes, de n'être pas en permanence peuplé de ces voix dont parlent certains poètes ou qui parfois débordent chez certaines personnes qui les entendent et qui peuvent être sacralisées, ou alors qu'on enferme, ou alors qu'on laisse errer dans nos rues. Mais celui-ci, ce rejeton-là, d'une ou plusieurs généalogies, on lui conférera le talent d'être vraiment tout ce monde. On en fera le représentant de toutes ces voix, celles qui crient encore, ou alors même celles qui ont renoncé à crier. On lui conférera, à ce fils de la chair, d'être le présent, d'être le passé, et aussi ce qui advient. On découvrira en lui un homme-monde, qui serait venu parce qu'il le fallait, et dont on parle encore ce matin, ou aujourd'hui, puisqu'il le faut encore. Oui, encore, dans la mesure où malgré une pandémie universelle, où l'on aurait pu se percevoir dans le même bateau, eh bien les guerres de territoire continuent, et la passion de l'argent et du jeu continue à démolir à peu près tout ce qui reste à démolir. Cet homme-là, qui a enregistré dans sa chair tout ce qui est humain, a encore quelque chose à dire, et particulièrement dans ce Noël 2020. En cela, il n'est plus comme nous, puisque nous avons, nous, une amnésie constitutive que lui, dont on découvrira qu'il est divin, n'aura pas. Mais en cela aussi, il nous appelle à nous rendre compte que notre petite présence individuelle qui clignote un moment et puis s'en va, n'est pas tout. Il nous appelle à nous rappeler, pour qu'il soit vraiment comme nous, ce qui nous a produit et à remédier à notre solitude imaginaire, puisqu'en réalité, seuls, nous ne le sommes pas. Nous sommes en compagnie permanente de l'histoire du monde et grâce à celui qui s'est fait chair universelle, celui dont on plantera la croix pour désigner le début d'une nouvelle histoire, grâce à lui, nous pouvons sans crainte nous engager pour que rien ne recommence plus comme avant. Comme lui, au fond, nous pourrions devenir, instruits par les fibres mêmes de notre chair, des fondateurs d'une nouvelle histoire, à condition que nous ne nous contentions pas de juste clignoter un moment, que nous arrêtions de nous passionner uniquement pour la beauté de l'éphémère et aussi la merveilleuse sensation de l'absurde. C'est aussi cela Noël, un moment où nous comprenons que tout pourrait vraiment changer si nous réalisions qui nous sommes vraiment. Nous sommes faits par toute l'histoire du monde et il est temps de faire quelque chose de ce précieux trésor. Amen.